du malaise des jeunes et surtout de celui des jeunes hommes. En attendant, il est 7h sur France Culture. Et voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La santé mentale, priorité nationale de l'année 2025, est au centre d'un plan présenté par le ministre de la Santé. On viendra sur ses grands axes, mais aussi sur la pénurie actuelle des soignants dans les centres médico-psychologiques.
L'archéologie préventive, modèle français qui a fait ses preuves, est mise en danger par un projet de loi.
Et puis nous reviendrons également sur la mort d'un génie tourmenté de la musique pop, Brian Wilson, vous en parliez, membre et fondateur des Beach Boys. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
Consultation, diagnostic, prescription, quelle nouvelle responsabilité pour les infirmiers ?
Réponse à partir de 7h15. Crise du Covid, influence des réseaux sociaux, psychiatrie en souffrance, mais aussi facteurs économiques, sociaux et environnementaux. La santé mentale est en crise et le sujet est censé être la grande cause nationale de 2025. Il a été remis en lumière après le meurtre mardi de Mélanie, surveillante d'un collège de Haute-Marne, par un adolescent de 14 ans. Il se trouve qu'aujourd'hui s'ouvrent les journées de la santé mentale, l'occasion pour le ministère de la Santé de proposer un plan en une trentaine de mesures qui doivent représenter, selon le ministre Yannick Neuder, un point de départ pour un engagement durable. Un plan détaillé hier soir, on en précise les grandes lignes avec Victor Dolande.
Repérer, soigner et recruter. Le ministre de la Santé veut d'abord lancer un grand dispositif de vigilance collective des troubles anxieux et dépressifs. On parle surtout ici des jeunes. Depuis la crise du Covid, plus d'un jeune sur cinq souffre de dépression. Yannick Neuder souhaite donc mieux former le personnel de santé scolaire pour repérer les élèves qui vont mal. Mieux soigner, ça passe par des moyens supplémentaires pour les CMP, les centres médico-psychologiques, des structures qui accueillent des patients en difficulté. Le problème, c'est qu'il y a 1 à 2 ans d'attente dans ces centres. Mieux soigner, c'est aussi multiplier les services d'accès aux soins psychiatriques dans plus de régions pour proposer des rendez-vous urgents et non programmés aux patients, soit à l'hôpital, soit en ville. Le ministre de la Santé veut aussi doubler le nombre de psychologues qui participent au dispositif Mon Soutien Psy, des rendez-vous gratuits proposés à des patients en difficulté. Enfin, le ministre veut créer un choc d'attractivité en psychiatrie, une discipline qui n'attire plus les étudiants en médecine, et ce, depuis des années.
On ne peut pas rattraper 10 ans d'atermoiement et d'attente en 2 coups de cuillère à peau. Ces mesurettes ne vont pas résoudre quoi que ce soit. Ça, c'est la réaction à ce plan de Jean-Pierre Salvarelli, le porte-parole du syndicat des psychiatres hospitaliers. D'autres associations en pointent le manque de chiffrage financier. On l'entendait en effet, les centres médico-psychologiques, ces structures d'accueil de jour, sont dramatiquement sous-dotés alors qu'ils croulent sous les demandes, particulièrement les centres accueillants des jeunes, comme les maisons des adolescents. Exemple dans celle du 18e arrondissement de Paris, où s'est rendue Mathilde Cariot.
Elles sont 2 psychologues à la maison des adolescents Robert Debré pour environ 700 jeunes suivis cette année. C'est dense, admet Marie Delva.
De la Toussaint au mois de mai, on travaille pas à la chaîne, mais en tout cas c'est une grosse charge.
Le centre n'est ouvert qu'aux jeunes du 18e, entre 12 et 20 ans, et encore impossible de tous les accueillir.
Sur cette année, je pense qu'il y a eu 3 mois où on a dû décaler les accueils de 2-3 mois parce qu'il n'y avait plus de place.
Pareil dans le 19e et pire dans les CMP, les centres médico-psychologiques gratuits. Dans celui de la rue Championnet, à quelques pas de la maison des adolescents, il y a plus d'un an d'attente.
On a des demandes toutes les semaines.
Claire Verdier est la directrice du centre. Sur son bureau, un énorme classeur avec toutes les demandes à traiter.
C'est ce que je vais faire cet après-midi d'ailleurs, c'est que je vais faire un tri pour appeler les parents et voir s'il y a des enfants qu'on peut prendre à la rentrée.
Un délai catastrophique, nous dit-elle, car chez les plus jeunes, les troubles peuvent s'aggraver très vite.
Tout à l'heure, je l'appelle d'une maman qu'attend depuis le mois de février. Et là, son enfant, il est aux urgences de Robert Debré pour une crise suicidaire.
Il nous faut des moyens en urgence, conclut la responsable, pour agrandir les centres et embaucher des psychologues, des infirmiers, des pédopsychiatres. Pour l'instant, tous les soignants du CMP sont à temps partiel.
Et puis, on rappelle que les troubles psychiques touchent environ 1 personne sur 3 et que quelques 2 millions de Français sont pris en charge en psychiatrie chaque année. Un impôt spécifique pour les ultra-riches, c'est ce sur quoi vont devoir se prononcer les sénateurs cet après-midi. La proposition de loi visant à mettre en place cette taxe Zucman, du nom de l'économiste français qui la propose, avait été adoptée par les députés. Elle prévoit un niveau d'imposition plancher pour les personnes qui disposent d'un patrimoine financier professionnel et immobilier supérieur à 100 millions d'euros, avec potentiellement 20 milliards d'euros annuels de rentrées publiques à la clé. On reviendra largement sur cette proposition dans le journal de l'Écho à 7h30. C'est l'une des dernières sessions de négociation pour les partenaires sociaux autour du sujet toujours brûlant des retraites. Aujourd'hui se tient une nouvelle réunion de ce conclave proposé par François Bayrou au début de son mandat, quitté par la CGT depuis que le sujet de l'âge de départ est devenu non négociable. Conclave censé prendre fin le 17 juin. Il se trouve qu'aujourd'hui c'est aussi la date de la remise du rapport annuel du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Un rapport qui a fuité et dont les fuites ont fait beaucoup réagir. On y revient avec Wafia Kenich.
Le Conseil d'orientation des retraites est un organisme technique dont la vocation est de rendre compte statistiquement et collégialement des données globalement issues de l'INSEE. Cette année, les 41 membres du COR ont découvert dans la presse les éléments les plus explosifs du rapport, presque une semaine avant sa publication officielle. Et au milieu des chiffres et des graphiques, une phrase met vent debout les syndicats. Compte tenu des déficits durables et importants, le COR préconise dans le rapport qui a fuité de reculer encore plus l'âge du départ en retraite, 66 ans et demi d'ici 2070. Pour les organisations syndicales, opposées vigoureusement depuis 2 ans au recul de l'âge du départ en retraite à 64 ans, cette perspective est vécue comme une provocation. Certes, il s'agit d'une version de travail du rapport, mais pour les partenaires sociaux, son élaboration est biaisée. Certains parmi les représentants syndicaux mettent en cause Gilbert Sept, le président actuel du COR. Cet économiste qualifié de libéral par la CGT était un soutien d'Emmanuel Macron lors de la présidentielle de 2017. Selon un des membres du COR, il est, je cite, persuadé d'avoir raison en choisissant l'âge de départ comme unique levier pour résorber le déficit du régime. La CFDT a même estimé que la fuite de cette hypothèse du recul à 66 ans et demi en 2070 était un piège. C'est une peau de banane lancée aux discussions du conclave, a expliqué Marie-Lise Léon. Les discussions pour parvenir à la validation du rapport du COR aujourd'hui risquent donc d'être animées.
Wafia Kenich, et puis c'est un sujet qui fait moins réagir et qui pourtant est au menu en ce moment des discussions entre parlementaires, l'archéologie préventive. Les agents des services régionaux d'archéologie et ceux de l'INRAP, qui mènent des fouilles préventives, donc se mobilisent aujourd'hui car leur mission et leur service risquent de beaucoup pâtir d'un projet de loi examiné en ce moment, la simplification de la vie économique. Elle pourrait alléger certaines réglementations et procédures et mettre en danger ces fouilles préventives donc qui se font désormais à chaque projet d'aménagement d'ampleur. Des fouilles qui ont pourtant beaucoup apporté à la recherche en histoire. Les syndicats attendent donc une forte mobilisation de la profession, Pierre Repère.
Mise en place en 2001, l'archéologie préventive consiste à demander à chaque aménageur de réaliser un diagnostic archéologique avant de commencer un chantier. Cette politique a permis de préserver le patrimoine et de faire de nombreuses découvertes et elle est aujourd'hui menacée, assure Séverine Hurard, co-secrétaire générale de la CGT Archéologie.
Les mesures de simplification de la vie économique contiennent des dispositions qui empêcheraient toute détection du patrimoine archéologique avant grands travaux. Il est question d'élargir l'assiette des projets d'intérêt national majeur pour les exempter de l'obligation de diagnostic archéologique et éventuellement de fouilles si des vestiges étaient conservés. On est en train d'élargir les règles d'exemption sur des projets de type data center, projets agri-photovoltaïques. Au gré des pressions, certains lobbies, on aurait des secteurs entiers de l'aménagement qui seraient exclus du dispositif de 2001 sur la loi de l'archéologie.
Les revendications des syndicats ne s'arrêtent pas là. Ils dénoncent également une diminution des budgets de 25% en 2024, des coupes budgétaires qui impactent les moyens humains et les missions. Séverine Hurard.
Ce qui fait sortir tout le monde là dans la rue, c'est qu'en fait, les attaques violentes, elles viennent du ministère qui a décidé de réduire l'activité pour répondre à des impératifs de réduction des budgets de la fonction publique. Ce que ça va donner, c'est un gâchis humain, c'est un gâchis scientifique qui sera irréversible. On est en train de mettre en péril un secteur économique qui se portait plutôt pas trop mal. Donc c'est une catastrophe annoncée pour les 10 années à venir, sinon les 20 ans à venir.
Le mouvement de grève n'empêchera pas la bonne tenue des journées européennes de l'archéologie qui débutent dès demain. Les archéologues y voient un moyen d'aller à la rencontre du public et de l'informer des dangers qui pèsent sur leur profession.
Pierre Roper.
7h09 sur France Culture, c'est la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. On passe à l'actualité internationale. La Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Washington et Israël, affirme qu'au moins 5 de ses employés palestiniens ont été tués dans une attaque du Hamas.
Et ce, après un nouvel épisode meurtrier en marge de ses opérations. La situation humanitaire ne s'arrange pas, en effet, et donne lieu à des affrontements dans l'enclave. Outre les distributions d'aide opérées par Israël, des camions de l'ONU entrent au compte-gouttes au sud de Gaza, mais trop peu nombreux, ils sont souvent pillés. On y reviendra dans le journal de 8h. Quelques détails de l'accord commercial scellé à Londres entre la Chine et les États-Unis commencent à fuiter. Le président américain a confirmé hier qu'accord il y avait bien. Après s'être entendu sur une pause de 90 jours sur les surtaxes douanières, plusieurs mesures punitives ont été définitivement levées en échange d'accès facilité à plusieurs marchés. On fait le point avec notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
Washington a essentiellement obtenu que la Chine accepte de nouveau d'exporter ses terres rares et ses aimants précieux que les fabricants américains utilisent notamment pour les moteurs des véhicules électriques. Les restrictions chinoises avaient entraîné la fermeture temporaire d'une usine Ford et menaçaient d'autres entreprises de fermeture. Les spécialistes estiment que la Chine a 30 ans d'avance dans la production de terres rares. Elle sait les extraire, les traiter, les raffiner. Là où l'industrie américaine n'a qu'une seule mine de ce type, elle est en Californie, et même si elle fait des progrès, eh bien elle est dépendante, l'Amérique, de Pékin, et il lui faudrait au moins 5 ans pour inverser cette tendance. Donc, la Maison-Blanche a fait des concessions pour récupérer des terres rares chinoises. Elle a notamment accepté d'alléger les contrôles sur ses propres exportations vers la Chine, notamment de certaines technologies sensibles comme les pièces d'avion ou les logiciels de conception de semi-conducteurs.
Sébastien Paour, enfin, c'était un génie tourmenté dans la plus pure tradition. Il avait porté la musique pop à des sommets. L'aîné de la fratrie des Beach Boys, Brian Wilson, est mort à l'âge de 82 ans. On l'apprenait hier, musicien sourd d'une oreille, chanteur, producteur et surtout précurseur. Il a hissé au panthéon de la musique californienne des années 60, dont les tubes résonnent dans le monde entier. Good Vibration, pour ne citer qu'elle, chanson d'apparence simple mais d'une complexité incroyable, ou encore Get Around, sans compter des chansons moins connues mais également ambitieuses, dans une carrière solo ponctuée de dépression et de drogue. L'homme avait beaucoup souffert, notamment d'un père violent, et ses tourments avaient coloré toute son œuvre. Pourtant, ce sont des mélodies qui rappellent la douceur de vivre californienne, berceau des Beach Boys, que le public retiendra. La Californie qui, sans doute, ce matin est un peu orpheline. Reportage sur l'emblématique plage de Paradise Cove à Malibu de Benjamin Illy.
I'm a beach boy.
Love colorful clothes she wears.
Donc voici cette petite plage iconique de Paradise Cove. C'est ici qu'a été prise la photo qui est devenue la couverture du premier album des Beach Boys en 1962.
A very poor surfer.
Alors ce mauvais surfeur a 61 ans.
He is a genius.
Il voyait Brian Wilson comme un génie et les Beach Boys comme les Beatles américains.
The American Beatles.
Deux amis, Michel et Carole. La mort de Brian Wilson, c'est la fin d'une ère. Et Michel qui ajoute, il a fait de beaucoup d'entre nous des Californiens fiers. Juste à côté de la plage, il y a le Beach Café qui porte bien son nom.
Hello. Oui, non, mais c'est bonjour, nous, ici. Je suis américain, mais je suis né ici.
Et vous avez des liens avec la France?
Oui, de la Touraine. Jean-Jacques, JJ. Le dernier qui est venu ici, c'est justement lui.
Brian Wilson.
Oui, Brian, il était dans une chaise roulante. Il s'est mis tout à fait devant à la fenêtre quelques semaines avant de mourir.
Venu dire adieu.
Ah, exactement. Merci.
Bon, moi, je reprends la route et d'accord. Vous devinez quelle musique je vais mettre dans la voiture.
Ah, je m'en doute, oui.
Benjamin Illy à Paradise Cove en musique. On continue avec la météo de ce jeudi en France. Le ciel est chaotique dans le nord-ouest. jusqu'au Pays de la Loire et à la Normandie. Partout ailleurs, temps sec, soleil bien présent et température élevée. Comptez de 20 degrés à Brest et Cherbourg, à 33 degrés à Grenoble, 29 à 31 degrés ailleurs en moyenne. Et c'est à vous, Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Consultation, diagnostic, prescription. Quelles sont les nouvelles responsabilités des infirmières et des infirmiers ? À 7h14, la voix de Brian Wilson, c'était au micro de Philippe Manœuvre.
I tried serving once and I fell off the board and the board just missed my head by that far and I never tried it again.
Alors j'ai essayé de surfer une fois, je suis tombé, la planche a failli m'assommer, j'ai plus jamais essayé. Le roc vieillit, avant il avait plus d'âme, plus de chaleur, tout n'est pas perdu mais c'est plus ça. Moi quand j'ai entendu Rubber Soul, j'ai flashé, par esprit de compétition j'ai décidé de faire mieux, j'ai foncé en studio faire Pet Sounds. Quand McCartney a entendu Pet Sounds, il a flippé, il a sorti Sgt Pepper. Et moi quand j'ai entendu Sgt Pepper, moi aussi j'ai complètement flippé, je me suis dit mais... quel disque.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, and I flipped. I said, that's a great, great, really great record.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Marguerite Caton, une vie un peu à la Brian Wilson que la vôtre. Bonjour.
Pas mal de surf, évidemment. Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Une petite révolution dans la santé, les infirmières s'émancipent.
La proposition de loi sur la profession d'infirmier a été adoptée à l'unanimité mardi soir par l'Assemblée nationale et la semaine prochaine, le Sénat se prononcera à son tour, sans grand suspense, sur un texte transpartisan qui fait consensus, mais n'est pas pour autant un texte mou. Au contraire, une transformation profonde de l'organisation des soins est engagée, l'élargissement des missions et des responsabilités des infirmiers trace une nouvelle ligne de partage à l'intérieur du corps médical. Bonjour Sounimé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes infirmière, docteur en sciences de gestion, chercheuse associée au laboratoire à Rennes. Demain, vous deviendrez maîtresse de conférences en sciences infirmières à l'Université Paris-Cité. Bref, vous êtes à la fois praticienne et chercheuse, ainsi que l'autrice d'un livre aux éditions Célie Arslan, « Les infirmières chercheuses, quelle place dans les organisations de santé ?» Un mot de l'intention de la loi, elle s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux.
Oui, alors juste une précision, l'Université de Rennes.
L'Université de Rennes.
Oui, alors cette loi, elle s'inscrit du coup dans un contexte plutôt sociodémographique, en tout cas sanitaire, à la fois sur le fait qu'il y a une transformation, en tout cas une évolution des prises en charge des patients plus vieillissants, polypathologiques, donc sur lesquels on doit les accompagner. Et aussi, elle s'inscrit de façon parallèle à une demande de reconnaissance de la profession depuis plus de 20 ans et peut-être une visibilité de ses compétences infirmières et que ça officialise ses compétences. Me semble-t-il que ça répond à la fois à une demande de santé publique et à la fois une demande de la profession.
Donc plus de patients qui sont plus malades, est-ce que du coup l'objectif avec la reconnaissance des compétences d'infirmiers, c'est de dégager du temps de médecin ou de rendre la profession d'infirmier plus attractive, parce qu'elle est aussi en souffrance?
Alors, un peu des deux. Alors, je ne dirais pas tout à fait de dégager du temps de médecin, c'est-à-dire c'est de réorganiser les prises en charge. C'est-à-dire, comme les patients sont plus complexes, effectivement, ça demande aussi de l'expertise médicale de façon plus aiguë pour les prises en charge. De aussi, et c'est un peu l'essence de cette loi, d'avoir aussi une approche de prévention aussi, hein, et d'éducation auprès de ces patients. Donc ça aussi sur la place infirmière, de recentrer aussi la place de l'infirmière sur de l'accompagnement, peut-être une prise en charge un peu plus holistique. Et évidemment, garantir une diversité, en tout cas dans la carrière infirmière, sur une évolution, sur de l'autonomie et sur une reconnaissance des compétences, oui.
Alors, la reconnaissance des compétences, vous commencez à nous en parler. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les infirmières et les infirmiers ont acquis des nouvelles compétences et elles ne seraient pas reconnues, ou en fait, ce sont les mêmes qu'auparavant, mais là, enfin, on en prend acte?
Alors, je pense que effectivement, cette loi permet de voir une visibilité de ces compétences bien acquises. On le voit à la fois sur, alors, la symbolique de la consultation qui officialise, mais aussi la symbolique, en tout cas, la visibilité des diagnostics infirmiers, pour lequel moi-même, il y a plus de 20 ans, j'étais formée sur la prise en charge des diagnostics. Donc, c'est finalement de révéler cette posture infirmière qui existait vraiment et peut-être de l'officialiser, effectivement. Plus qu'une nouveauté, me semble-t-il.
Donc on n'a pas d'évolution des formations, Mais peut-être on a une évolution de la pratique et des expériences face à des pathologies que vous nous avez décrites, plus complexes.
Oui, c'est-à-dire que la complexité des patients fait que les techniques évoluent, alors les techniques médicales, et de par effet collatéral aussi les techniques de prise en charge infirmière, mais aussi d'autres acteurs, on pense aux kinésithérapeutes, ergothérapeutes, et je vais en oublier certainement, de façon collatérale. Mais ce qui est aussi intéressant là aujourd'hui, c'est qu'il y a une officialisation de cette expérience, de cette expertise infirmière qui était un peu sous les radars et qui est aujourd'hui devant la scène.
Voilà, donc le cadre précédent, il date de 2004, c'était des décrets qui sont donc périmés. Les nouveautés prévues par la loi, d'abord, vous avez commencé à nous en dire un mot, un accès direct à une consultation infirmière. Dans quel cas pourra-t-on désormais prendre rendez-vous directement, sans passer par un médecin, auprès d'un ou d'une infirmière ?
Alors, si je me mets à la place de tout le monde, à votre place par exemple, vous bricolez et malheureusement pour vous, vous vous blessez. L'idée c'est évidemment de décharger les urgences, parce que c'est malheureusement un premier réflexe, d'éviter l'attente trop longue d'une prise en charge de consultation médicale et donc d'aller voir ses infirmières. Et l'infirmière aura du coup, dans ce cadre de loi ici présent, la possibilité alors, d'évaluer la plaie dans un premier temps et en regard de cette évaluation, soit de vous prescrire dans un cadre évidemment défini, des thérapeutiques pour soigner cette plaie et aussi du coup vérifier la vaccination, enfin voilà tout ce qui est en regard. Et au-delà de ces compétences, si la plaie est grave, du coup de vous orienter vers un professionnel. Donc l'idée derrière cette loi, c'est de fluidifier le parcours, en tout cas l'offre de soins, et le parcours patient, en tout cas de cet accès direct dans les consultations, qui, je rappelle, du coup n'est pas en concurrence avec les consultations médicales, mais bien en complémentarité des consultations médicales.
Il y a aussi deux notions importantes, celle de diagnostic infirmier et de prescription infirmière. Là, ça va être dans la loi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? En quoi cela diffère d'un diagnostic et d'une prescription médicale ?
Oui, alors un diagnostic médical, c'est-à-dire que du coup, il y aura une identification d'une maladie sur la base de symptômes, donc il faut des compétences médicales pour le faire, et ça, la loi ne va pas le changer. La différence, c'est que du coup, les diagnostics infirmiers sont en support, on va dire, d'une prise en charge holistique. Je reviens sur votre plaie.
Plus complète,
Plus complet, par exemple, il y a un diagnostic qui s'appelle altération de l'état cutané, un diagnostic infirmier. Oui, donc c'est pas du coup la maladie en tant que telle, mais c'est l'identification que, suite à votre plaie, vous une altération de l'état cutané. Et de ce fait, il y a des signes au regard et donc des actions infirmières à mettre en place. Et dès lors que ça déborde de ces actions infirmières, du coup, il y a une orientation médicale.
Un autre exemple. Ce diagnostic infirmier, il y a des altérations cutanées.
L'altération cutanée. Un autre diagnostic, ça peut être une altération de l'état respiratoire. Vous avez une maladie, un cancer du poumon, qui peut
diagnostiqué
par un médecin, avec du coup une stabilité, mais pour X ou Y raison, le pollen, vous avez couru, ou il y a peut-être sous-jacent une crise d'asthme, là, donc vous êtes face à l'infirmière, et l'infirmière va faire un diagnostic de l'altération des capacités respiratoires, donc ça sera une première porte d'entrée, et à partir de cette porte d'entrée diagnostic, elle va évaluer est-ce que c'est qu'une altération, ou est-ce que c'est bien plus grave, et donc une orientation vers un médecin. J'espère que j'ai été plus claire.
C'est très clair. Et une fois qu'elle aura évalué si là, il faut réorienter vers le médecin, parce que c'est le cancer qui évolue, ou si c'est les pollens qui viennent irriter les poumons, elle pourra prescrire des antihistaminiques. Alors là, vraiment, je dépasse complètement mes compétences.
On n'a pas encore la liste exacte des thérapeutiques, mais on peut imaginer, du coup, dans cette liste-là, effectivement, peut-être des aérosols pour, de façon, on va dire, instantanée et ponctuelle, pour répondre à ce diagnostic-là.
D'un mot de conclusion, Sounimet, on assiste quand même à une petite révolution pour une profession féminine, souvent conçue comme subalterne, soumise aux médecins masculins. Là, il y a un vrai changement, c'est important quand même.
Oui, on est dans un changement de paradigme, me semble-t-il. Je peut-être conclure là-dessus que c'est pas de la concurrence, mais du coup, de remettre les pions sur l'échiquier avec la place de tout le monde dans la prise globale du patient, à la fois pour les médecins, du coup, avec leur expertise, à la fois pour les infirmiers pour révéler la profession, avec effectivement l'intérêt peut-être d'aussi d'un métier qui est un peu en souffrance d'attractivité, de fidélisation, de voir qu'il y a d'autres opportunités, en tout cas de pratiques professionnelles et d'autres cursus professionnels.
Merci beaucoup, Sounimet. 7h24, Guillaume Erner, lors de la revue de presse.
Eh bien, Brian Wilson, car il fait partie des jeunes dont on parle ce matin. Bon, un jeune de 82 ans, parce qu'on peut être jeune jusqu'au bout dans Libération. Une grande nécrologie signée Christophe Comte rend compte donc de ce qu'il fut, cet homme, l'aîné des Beach Boys, architecte sonore fabuleux, génie de la pop, qui a conçu des moments hédonistes comme Good Vibrations. Il avait hissé son groupe de surfeurs californiens jusqu'au panthéon de la pop, rivalisant avec les Beatles. Avant de sombrer dans la dépression et la paranoïa, il est mort après, je cite, avoir tout essayé en matière de drogue, incarner une forme de jeunesse à base de beurre de cacahuète et de burger, écrit Libération. Autre jeunesse, autre ambiance, celle dont s'inquiète le Figaro, violence des mineurs, attaque à l'arme blanche, l'État cherche la parade, installation de portiques dans les établissements scolaires, interdiction de la vente des couteaux aux moins de 18 ans, plan pour la santé mentale, les pistes se multiplient pour contenir ce phénomène inquiétant. On reste en Californie, puisque les Beach Boys, c'est californien. En une du Figaro, un autre visage de la côte ouest, Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, vent debout contre Donald Trump, une manière de jauger les forces qui s'opposent encore au mania républicain. Et puis tout le monde n'est pas jeune, mais tout le monde a été jeune et songe à la retraite, justement la retraite vers un compromis. La CFDT n'exige plus le retrait pur et simple de l'âge pivot à 64 ans pour revenir à la table des négociations avec le patronat. C'est la une des Échos. Les syndicats réformistes prennent acte des propositions du MEDEF, notamment sur l'annulation de la décote à 66 ans au lieu de 67 ans. À la une de La Croix, la Tunisie où les migrants subsahariens sont pris au piège dans la région de Sfax. À la une de l'Humanité, la taxe Zucman, du nom de l'économiste spécialiste de la fiscalité, objectif imposé de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Voilà, je vois quelques auditeurs qui tremblent.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Pas sûr, effectivement. Un reportage de la rédaction. Si le tatouage n'a jamais été autant à la mode, hein, Marguerite, le commerce du détatouage explose, une mode poussée par des regrets, mais aussi inspirée par une tendance conservatrice sur les réseaux sociaux. Un reportage d'Estelle Caméraire.
Que vous entendez, c'est les pulvérisations liées au laser.
Le docteur Jean-Marie Fèvre est chirurgien plasticien.
Le laser, en fait, il brûle pas la peau. La technique de brûler la peau, c'est ce qu'on faisait il y a 40 ans pour les tatouages, mais vous transformiez quelqu'un qui avait un tatouage contre quelqu'un qui avait une cicatrice. Alors que là, le pigment, vous voyez, il traverse la peau sans endommager la peau.
Le nombre de séances dépend de la taille du tatouage et de la couleur. Le processus est coûteux, plusieurs centaines à milliers d'euros, et très douloureux, mais parfois nécessaire, explique Zaya, qui s'est fait retirer quelques-uns de ses nombreux tatouages.
J'ai 52 ans et 35 tatouages. C'est un sablier qui est tenu par deux mains, mes enfants, mais pas leur tête, juste leur prénom. Aujourd'hui, j'en enlève certains qui ont une histoire, une page qui a été tournée. Et on les retire et on les remplace par autre chose, qui est plus gay ou qui vous ressemble plus ou qui s'identifie plus à vous.
Même en étant passionné de tatouage, il lui arrive parfois de penser que ce serait plus simple de n'en avoir aucun.
Quand je suis en maillot de bain, parce que j'ai des tatouages un peu partout et que je me dis peut-être que... Est-ce que c'est une histoire de féminité ou pas, je ne sais pas. Parce que parfois je me pose la question à me dire... Des tatoués, ce serait plutôt pas mal. Un petit tatouage par-ci par-là, un peu subjectif comme ça. Oui, et en fait, si je venais à tous les enlever, je crois que ça serait plus bon.
Le détatouage permet de dire adieu aux erreurs de jeunesse, aux dessins qui vieillissent mal. Mais pour Zaya, certaines femmes le font par mode, pour suivre une idée d'hyperféminité très traditionnelle.
Ça reste le désir d'une petite poignée d'hommes qui ont beaucoup de poids et qui ont des idées très conservatrices et qui font qu'aujourd'hui, bah, les filles, elles... reviennent à la normale parce qu'elles ont envie de plaire et qu'elles ont envie de satisfaire leur mec, quoi. On est ce qu'on est et est-ce que être détatoué nous rendra plus féminines? Je crois pas.
Cette tendance d'hyperféminité vient des États-Unis et a un nom, la clean girl. Entendez, la femme saine au look ultra contrôlé, sans aucun tatouage.
Les femmes always look clean, their skin is always glowing, and they never ever look like they're wearing too much makeup.
Des femmes vraiment qui vont s'inscrire dans les standards de beauté en vogue.
Anne Chirol est chroniqueuse au journal Le Monde et autrice de Toi toi-même, un essai qui décortique les sociotypes des réseaux sociaux.
Donc être très mince maintenant, faire très attention à elle, être vraiment dans une autodiscipline. Vous allez vraiment avoir des clean girls donc, qui vont vouloir être le plus net. Et donc ça, évidemment, ça veut dire enlever tout signe distinctif, vraiment dans une forme de perfection assumée. On voit aussi que dans les milieux conservateurs, par exemple chez Donald Trump, il y a ce qu'on appelle le Mar-a-Lago face, donc qui va être ce visage type qu'on trouve à Mar-a-Lago dans un des fiefs de Donald Trump, où en fait les femmes vont être vraiment très retouchées, parfois les hommes aussi. Et donc encore une fois, ici on voit une uniformisation de la beauté, qui ne plaît pas, qu'importe, mais on voit qu'on a toujours un peu les mêmes visages.
Sur les réseaux, les clean girls postent leur avant, après des tatouages et mettent en valeur leur peau blanche sans aucun défaut. Une tendance bien loin du mouvement body positive il y a quelques années, où tous les corps et toutes les imperfections étaient célébrés. Mais pour Anne Chirol, le tatouage serait aussi très, voire trop à la mode.
En fait, avant être tatouée, c'était une façon de se distinguer. Aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent souvent, mais en fait, le fait de pas être tatouée, je suis un peu devenue la minorité. C'est moi qui suis devenue la personne qui se distingue, qui est différente de vous. Il y a un peu cette confrontation entre le fait de s'inscrire vraiment dans un groupe, comme on voit sur les réseaux sociaux, et le fait de s'en affranchir, de se distinguer en ayant quand même sa petite originalité.
En France, un adulte sur cinq est tatoué. Par effet de mode ou par regret, l'industrie du détatouage a donc de beaux jours devant elle.
C'était le reportage d'Estelle Caméraire. Le tatouage, ça fait partie de la culture des jeunes et des moins jeunes. Anne-Laure Choin, on va parler de la culture des jeunes et des jeunes mâles. Parler de masculinité violente et peut-être de masculinité toxique dans quelques instants. 7h30. Le journal de l'écho, votre journal de l'écho, Anne-Laure Choin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La taxe Zuckman, ce matin dans le décryptage écho. Cette taxe sur les très riches, inspirée des travaux de l'économiste Gabriel Zuckman, et dont le principe a été adopté par les députés en janvier dernier. Désormais, c'est aux sénateurs de se pencher sur la question. Ils examinent aujourd'hui une proposition de loi écologiste autour donc d'un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Bonjour Marie Viennot.
Bonjour Anne-Laure.
C'est vous qui signez le décryptage éco. Cette taxe Zuckman s'appliquerait donc aux foyers fiscaux détenant plus de 100 millions d'euros de patrimoine.
Oui, on parle là vraiment de très peu de gens. 1800 contribuables seraient, selon Gabriel Zuckman, concernés par cet impôt qui est un impôt différentiel. Alors comment ça marche ? Pour les personnes dont le patrimoine, c'est-à-dire patrimoine immobilier, professionnel et financier dépasse les 100 millions d'euros, eh bien on ajouterait la somme de tous les impôts qu'il paie, impôt sur le revenu, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, CSG, CRDS, impôt sur la fortune immobilière. Et si le total est inférieur à 2% de leur patrimoine, cet impôt différentiel s'applique. Exemple, j'ai 1 milliard d'euros de patrimoine, 2% de 1 milliard, cela fait 20 millions. Si le total de mes impôts, c'est 15 millions, eh bien je devrais payer 5 millions de taxes Zuckman pour atteindre cet impôt plancher. L'objectif est double, corriger une part de l'optimisation fiscale que pratiquent généralement les plus fortunés et rétablir la progressivité de l'impôt, car plus on monte dans l'échelle, plus il est régressif.
En effet, Marie, une étude publiée il y a 2 ans a dressé ce constat. Au-delà de 600 000 euros de revenus économiques par an, le pourcentage payé en impôts décline.
Oui, c'est l'originalité de l'étude menée par l'Institut des politiques publiques. Plutôt que de prendre comme seul critère le revenu déclaré au fisc, les chercheurs ont calculé un revenu économique qui comprend aussi les revenus associés au capital professionnel. Car dans le haut de l'échelle, c'est surtout via les bénéfices des sociétés qu'ils détiennent que les plus aisés s'assurent un revenu. Or, le constat de ces chercheurs, c'est que jusqu'à 600 000 euros de revenus économiques, soit 37 000 foyers en France, le pourcentage payé en impôts, taxes et cotisations est bien progressif, il augmente régulièrement pour atteindre 46%. Mais au-delà, c'est l'inverse. Pour les 0,01%, soit 3780 foyers, on passe à 32%. Et pour les milliardaires, qui ont plus de 150 millions de revenus économiques par an, on passe à 26%. 26%, on est bien en dessous du taux moyen de prélèvement obligatoire, qui en France est de 42% de la richesse produite, c'est-à-dire du PIB.
Alors, selon les calculs de Gabriel Zuckman, cette taxe ou impôt différentiel pourrait rapporter 20 milliards d'euros par an, mais le ministre de l'économie y est opposé avec des arguments proches de ceux qu'on va entendre cet après-midi au Sénat.
2%, ce serait confiscatoire, donc potentiellement anticonstitutionnel, estime le rapport de la Commission des finances du Sénat. Ensuite, les riches seraient tentés de s'exiler, d'autres obligés de vendre leurs actions pour s'acquitter de ce nouvel impôt. On connaît ces arguments. Le troisième est d'ordre opérationnel et dit en gros, l'étude de l'Institut des politiques publiques est biaisée. En réalité, on ne connaît pas bien le patrimoine des plus fortunés et donc on ne va pas savoir qui taxer. Alors, c'est effectivement un vrai problème. L'INSEE ne publie encore rien sur le patrimoine professionnel des personnes physiques et l'Institut n'a, me répond-il, aucune donnée administrative sur le patrimoine financier. Alors même que ces deux patrimoines constituent l'essentiel de ce que détiennent les plus riches. Aveugle sur l'ultra-richesse, la statistique publique le serait-elle moins si la puissance fiscale venait par le biais de ce nouvel impôt, l'épauler, eh bien c'est l'un des arguments de ses partisans. Et clairement, le débat public sur ce sujet ô combien sensible aurait beaucoup à y gagner.
Marie Viennot, merci. On réécoute votre décryptage écho à la page du journal de l'écho sur le site de France Culture. On passe à l'actualité économique en bref. Et c'est bien la liquidation judiciaire qui s'annonce pour l'enseigne de décoration Casa. Les offres de reprise examinées par le tribunal de commerce s'annoncent irrecevables. Les 143 magasins Casa de l'Hexagone pourraient donc fermer, une situation causée, selon la direction, par la faillite de la branche belge chargée de la logistique du groupe. À cela s'ajoutent les difficultés du secteur de l'immobilier, dont dépend directement l'ameublement et la décoration, mais également la concurrence de géants comme Ikea ou du commerce en ligne. Habitat ou encore Maison du Monde connaissent également des difficultés. L'âge de départ à la retraite continue de constituer le nœud principal des discussions entre partenaires sociaux, alors qu'hier se tenait une nouvelle réunion des syndicats et du patronat sur le sujet. La suite du conclave, les premiers n'ont pas obtenu de bouger du MEDEF sur l'âge. Le patronat propose deux mesures en revanche, rendre plus favorable le calcul de la pension des femmes ayant eu des enfants et un départ avancé d'un an pour certaines personnes en invalidité. Pour les syndicats, le compte n'y est pas. La date prévue de la fin de la négociation, c'est mardi prochain. Enfin, les sénateurs ont adopté hier plusieurs mesures pour tenter de remédier aux difficultés des collectivités touchées par les catastrophes climatiques et les dégradations urbaines. Des mesures assurantielles, notamment. Les collectivités se plaignent de difficultés croissantes dans leurs relations avec les assureurs, avec des contrats parfois résiliés ou encore des primes ou franchises devenues exorbitantes. Le texte adopté étend notamment le champ de la garantie obligatoire des contrats d'assurance aux dommages résultant d'émeutes.
Et dans le prochain journal, autrement dit le journal de 8 heures, de quoi parlera-t-on, Anne-Laure ?
Alors la taxe Zucman et la liquidation de Casa, ce seront aussi des titres du journal de Margot Delpierre. Elle reviendra en outre sur l'accord commercial trouvé entre la Chine et les États-Unis, vu de Pékin. Et puis sur les pillages autour de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et puis sur des nouvelles mesures prises par le pouvoir syrien. Les Syriennes sont priées de se couvrir à la plage et dans les piscines publiques.
Merci beaucoup. Anne-Laure Chouin, 7h37 sur France Culture, on file à l'étranger.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Votre revue de presse internationale, elle nous emmène tout d'abord ce matin dans le nord du Togo, où la population est sous la pression djihadiste.
Avec l'impression d'un étau qui se resserre dans le nord du Togo, autour des habitants de la région des savanes. Son gouverneur alerte sur l'extrémisme, sur les tentatives de division religieuse ou ethnique qui menacent le tissu social, rapporte l'agence togolaise de presse. Des familles sont démunies, peut-on lire dans un autre article, car l'insécurité et le sous-développement persistent, poursuit le journal Togo Réveil dans la région des savanes. Nous sommes à la frontière avec le Burkina Faso, où depuis 2015, les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes, rappelle Jeune Afrique. Et un large pan du territoire burkinabé échappe au contrôle de l'État et du chef de la junte, Ibrahim Traoré, malgré ses promesses de sécurité totale relayées notamment par le quotidien burkinabé Sidoya. Et si l'on zoome un peu plus, on peut voir les communautés peules prises entre l'enclume djihadiste et le marteau de la junte au pouvoir. Au Burkina Faso, comme au Mali d'ailleurs, relève Jeune Afrique dans une série d'enquêtes aussi glaçantes que passionnante. On peut voir des militaires livrer les peules à la vindicte des paramilitaires. Et par effet domino, plus au sud, la région des savanes au Togo connaît, elle, une crise humanitaire inédite depuis 2022, alerte le journal togolais La Bali et le quotidien Liberté, avec des incursions terroristes, des tensions aussi entre populations déplacées et des agriculteurs. Pâturages et points d'eau y sont chaque jour davantage source de conflits, souligne Jeune Afrique. Et pourtant, dans la région des savanes, l'élevage tient une place importante et les villageois togolais avaient l'habitude de confier leur bétail aux peuls sédentarisés. Ils restaient dans les villages avec leur famille, ajoute Jeune Afrique. Et les bouviers ne partaient vers la forêt qu'en saison sèche, entre février et mai, quand les pâturages devenaient rares.
Bon, mais c'est justement cet équilibre qui s'effondre, Catherine.
Avec l'augmentation de la population, l'afflux de réfugiés qui ont fui le terrorisme au Burkina Faso notamment, sans compter de nouvelles pratiques agricoles et le dérèglement climatique. L'eau manque, l'herbe a disparu, raconte Pendo Kourido, une éleveuse de la région des savanes, interrogée par Jeune Afrique. Même dans les zones reculées du Togo, poursuit le magazine panafricain, les groupes armés viennent voler le bétail des communautés peules du nord du pays et les pâturages jonchés d'engins. Engins explosifs improvisés sont devenus des terrains dangereux. Les djihadistes ont même tué un jeune peul qui servait d'interprète à la gendarmerie. Il symbolise le sort réservé à ceux perçus comme proches des autorités, indique Jeune Afrique. Mais les forces de sécurité togolaises soupçonnent, elles, les peuls d'aider les terroristes. Une communauté donc prise en étau, forcée à des déplacements incessants, mais depuis que les surfaces cultivées prennent le pas sur les pâturages, sur les couloirs de transhumance, aussi dans le nord du Togo, nos bœufs meurent de faim. Les paysans ont labouré partout, déplore un éleveur dans les pages de Jeune Afrique. Malgré des appels au dialogue relayés notamment par l'agence togolaise de presse, la communauté peul souffre au Togo et même dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Alors par ailleurs, l'opposition au Togo dénonce des arrestations arbitraires.
Lors des manifestations de la semaine dernière à Lomé, la capitale, contre le maintien au pouvoir de Faure Gnassingbé à la tête du Togo depuis 2005 comme président et désormais comme président du Conseil des ministres grâce à une réforme constitutionnelle. Mais selon le journal guinéen Le Djeli, repris par Courrier International, en mettant l'emphase sur l'évolution du régime présidentiel vers celui parlementaire, Faure Gnassingbé masque plutôt ses propres intérêts en feignant de replacer le peuple au centre du jeu démocratique. Car dans les faits, écrit encore Le Djeli, il s'est assuré de demeurer encore plus longtemps l'alpha et l'oméga de tous les secteurs de la vie du Togo. Inacceptable pour la jeunesse qui refuse de plier, salue le site d'information letogolais.com. Mediapart y voit également une révolte inédite d'étudiants, d'artisans, de médecins et autres soignants. Alors si 56 manifestants ont été remis en liberté en début de semaine, a annoncé le procureur de la République à la télévision d'État togolaise, d'autres restent en détention. Mais chaque fois que des menottes se referment sur les poignets d'un combattant, une flamme s'embrase dans le cœur de milliers d'autres. Ils ont voulu réduire au silence Amron, ce rappeur dont les mots étaient des armes de liberté, analyse également le site d'information letogolais.com, pour qui au Togo, l'heure n'est plus à la peur, mais à la révolte.
Et puis on en a parlé, on va en reparler d'ailleurs. La mort de Brian Wilson, le fondateur des Beach Boys, mort donc à l'âge de 82 ans.
Un génie aussi visionnaire que tourmenté, s'accordent à dire NME, la BBC et le magazine Rolling Stone. Surfing USA, California Girls, I Get Around, Good Vibrations et God Only Knows sont devenus des classiques grâce à lui. Brian Wilson, pianiste accompli, membre régulier d'une chorale dès l'âge de 8 ans, il a fait résonner la pop californienne dans le monde entier, rivalisant avec les Beatles, émulation créative entre les deux groupes, sans Pet Sounds des Beach Boys, pas de Sgt. Pepper's d'ailleurs des Beatles. Et je vous propose d'écouter un joyau de l'album Abandonné Smile, Surf's Up. Lost for now to a beauty trumpeter's swamp, covered in native ruins. Surf's Up, l'une des chansons les plus étonnantes des Beach Boys, avec des références à des nouvelles d'Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, un synthétiseur Moog également, et des chœurs de la famille Wilson. Un titre vraiment génial, a écrit Brian Wilson dans ses mémoires. Continuez à nous écrire à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Si vous avez la moindre question sur l'actualité internationale, nous vous répondrons dans la chronique interactive du samedi.
Merci beaucoup Catherine Dutu. On va continuer d'ailleurs d'évoquer les Beach Boys, en tout cas la culture jeune, puisqu'ils marquent avec la Californie cette naissance de la culture jeune, qui va donc des Beach Boys jusqu'à cette culture des jeunes, cette culture violente qui est aujourd'hui au cœur de l'actualité. Dans quelques instants, nous serons avec la sociologue Christine Castelin-Meunier. Il est 7h43 sur France Culture.
On a besoin de vous, nous allons sauver nos paysages, ceux qui disparaîtront peut-être dans quelques décennies.
Expérience Aurélie Charron.
Enregistrez-vous en message vocal, choisissez un lieu bien précis qui vous est cher, décrivez tous les détails que vous voyez, laissez libre cours à vos pensées et dites-nous où se situe le lieu, votre nom, votre prénom. Envoyez-nous le message vocal au 06 01 01 33 53.
Et si des tickets de caisse pouvaient raconter des histoires ?
Marie Richeux.
Pour l'écrivain et performeur Anne-James Chaton, les caisses enregistreuses des magasins impriment à leur insu des milliers de fables, d'histoires d'amour, de récits de science-fiction, des intrigues policières ou même des romans d'aventure. Il est notre invité.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Après la vive émotion qu'a suscité l'assassinat d'une surveillante dans un collège à Nogent, nous interrogeons sur cette violence de plus en plus forte qui touche des garçons de plus en plus jeunes. Nous sommes avec vous, Christine Castelin-Meunier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue au CNRS et à l'EHESS. On vous doit « Les hommes aussi viennent de Vénus » aux éditions Larousse et « Si on réinventait l'éducation des garçons ». Et alors, j'ai deux unes ce matin. La une du Figaro qui évoque l'État. L'État cherche la parade contre la violence des mineurs. C'est ce que dit le Figaro, bien sûr, suite à cet assassinat. Et puis, une autre, une, on a beaucoup parlé déjà, et où l'on voit Brian Wilson, le leader donc des Beach Boys, qui est mort. Et tout cela me fait songer à la sociologie, et notamment à la sociologie d'Edgar Morin, la manière dont celui-ci, dans l'esprit du temps, donc l'esprit du temps c'est 1962, mais aussi le journal de Californie en 1969, a expliqué comment la culture jeune devenait une culture autonome, avec sa musique, avec ses rites, avec ses normes esthétiques également, et puis avec la manière dont également il y avait une contre-culture, une violence également. Et c'est peut-être là-dessus que l'on pourrait débuter tous les deux, Christine Castelin-Meunier, pour évoquer la manière dont la jeunesse est devenue non seulement un mot nouveau, mais une forme de réalité sociale nouvelle dans les années 60.
Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que la jeunesse connaissait aussi l'émergence des blousons noirs, et qui renvoyait à la classe ouvrière, hein, et à ce désir d'autonomie. Mais moi, je relèverais plutôt du côté d'Edgar Morin cette notion de complexité et cette difficulté à trouver l'affirmation de soi, sa personnalité, dans une société très complexe. Et puisque c'est aussi la question du masculin, je dirais aussi, pour aller vers quelque chose de positif, qu'on est plus aussi dans le masculin pluriel aujourd'hui. Par contre, on est aussi, à l'inverse, dans le masculinisme, c'est-à-dire la volonté de faire ressurgir le masculin traditionnel, le virilisme. Et donc là, on sent bien qu'il y a des tendances qui s'opposent. Et ce qui est très dommage, c'est que le masculin en changement, qui est très porteur, eh bien, en fait, il est écrasé, étouffé par le masculinisme qui, lui, est très présent et essaye de se présenter comme le modèle d'affirmation du masculin et l'idéal viril.
Si l'on voulait définir ce qu'est le masculinisme, Christine Castelin-Meunier,
ben, Moi, ce qui m'a beaucoup frappée, j'ai commencé à travailler sur toutes ces questions du féminin masculin dans les années 88 et je suis tombée sur les groupes de défense de la paternité qui étaient nés à la suite du divorce par consentement mutuel de 1975. Et il y avait deux types de groupes de défense de la paternité. Ceux qui étaient favorables à l'égalité parentale quand il y avait séparation conjugale et qui revendiquaient le partage des responsabilités parentales et qui accompagnaient le mouvement des femmes dans le bon sens du terme. Et il y avait à l'inverse d'autres groupes qui étaient des groupes de défense de la paternité qui revendiquaient le masculinisme, le virilisme, en disant « il n'y a plus de père, c'est la faute des femmes, c'est la faute du mouvement des femmes ». Et là, je me suis dit « et mon œil ». Et donc, j'ai été voir du côté de l'histoire, et bien évidemment, les transformations de la paternité ont commencé bien avant le mouvement des femmes. Les historiens nous disent la Révolution française a accompagné la fin de l'âge d'or des pères, de la notion d'autorité, de référence à la loi, du côté du père. Et donc, il ne faut pas oublier que le masculinisme prend ses racines dans les années 75.
Bon, vous considérez, Christine Castelin-Meunier, que l'éducation des garçons n'est pas faite comme l'éducation des filles, qu'il y a donc une sorte de double standard.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est frappant, c'est que on a poussé l'éducation des filles dans le bon sens du terme, hein, puisque c'était nécessaire. Par contre, on a oublié un peu l'éducation des garçons. Et en fait, on n'a pas réalisé que les garçons sont plus punis que les filles, que les garçons travaillent moins bien que les filles, que les garçons sont renvoyés beaucoup plus souvent que les filles de l'école. Et donc, et que on a tendance à accuser les garçons de comportements a priori, qui sont bourrés de stéréotypes aussi, en disant les garçons ils sont sales, les garçons ils sont violents, ils sont bruyants, allez jouer au fond de la cour, vous faites trop de bruit, vous les filles venez là, on va vous protéger, etc. Donc il y a des représentations, des stéréotypes qui sont négatifs, et comme si on accusait les garçons, dès la naissance, d'être responsables de la domination masculine. En même temps, ce qui est complexe pour les garçons, c'est que ils sont sujet aux prises avec des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que, à la fois, il faut qu'ils soient virils, quand c'est des garçons, il faut qu'ils montrent qu'ils sont un homme, et en même temps, il faut qu'ils soient partie prenante de la culture égalitaire. Et donc là, ça crée véritablement des tensions et des difficultés d'identification. Et donc, effectivement, là, la société doit véritablement prendre en considération cette difficulté d'affirmation des garçons et faire en sorte que l'on accompagne le moins mal possible l'éducation des garçons.
On va écouter justement un extrait d'un reportage.
Cette intériorisation qu'il faut être fort et cette dévalorisation de la faiblesse, ça va rendre les garçons beaucoup plus intolérants à la frustration. En particulier, la frustration causée par autrui. Ils vont vivre ça vraiment de manière humiliante comme un signe de faiblesse. Ça va faire naître en eux beaucoup de colère et un besoin d'échapper à cette émotion par la réaction, souvent agressive. Donc faire un compromis, céder sur son désir, se remettre en cause, tout ça va être vécu comme une faiblesse. Donc le consentement va être extrêmement problématique pour ces hommes. Ils vont être vraiment dans un désir, sur tous les aspects de leur vie, d'imposer le leur, qui va faire naître une agressivité et de la violence pour imposer leur désir. Et on comprend donc que le féminisme, la libération des femmes sur tous les aspects, les terrorise, parce que plus les femmes ont de pouvoir, plus elles sont libres, plus c'est un pouvoir de les frustrer. Et donc le patriarcat va être extrêmement rassurant pour ces hommes, comme si le patriarcat venait tenir place pour éviter un maximum les frustrations aux hommes.
La voix d'Adrien Brossard, psychologue, un extrait du podcast « Un podcast à soi, comment élever les garçons » d'Arte Radio par Charlotte Bien-Aimée. Une réaction à ce que vient de dire ce psychologue, cette injonction à être fort et la dévalorisation de la faiblesse, c'est ce que vous évoquiez dans cette injonction contraire faite aux garçons à être fort et être égalitaire.
Oui, et c'est ça qui est vraiment qui ne va pas. C'est que la conception de la virilité est totalement opposée à la notion de vulnérabilité. Donc, un garçon ne peut pas montrer ses faiblesses. Et alors que l'éducation doit accompagner ce processus-là, faire en sorte que y ait une pédagogie qui permette aux garçons d'aller vers ce qu'on appelle, par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à gérer ses émotions, à les identifier. Et notamment, ça s'appelle aussi la météo intérieure, c'est-à-dire savoir parler. Et par exemple, les familles pourraient le soir parler ensemble de ce que chacun ressent en termes d'émotions. La peur, la tristesse, la haine, etc. Des tas de choses comme ça. Il y a aussi tout ce qu'on peut développer dans le sens donner la capacité aux enfants, dès la maternelle, de comprendre ce que les autres pensent et de réaliser que les autres ne pensent pas comme soi. Et donc, d'accepter cette diversité. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, bien évidemment, cette éducation à l'empathie. Il y a aussi cette capacité à exprimer ce qu'est le masculin, le féminin, c'est-à-dire à favoriser le dialogue, les échanges, au sein des classes, accompagnées par des personnes qui vont être compétentes en termes de psychologie. Et donc, on sent qu'il y a tout un chantier à développer pour prendre en considération la difficulté des garçons à s'affirmer dans cette société contemporaine complexe.
Bon, mais par exemple, dans votre livre, Les hommes aussi viennent de Vénus, livre que vous avez publié chez Larousse, Christine Castelin-Meunier, il y a une difficulté à concilier les stéréotypes et l'affirmation d'une distinction de genre, s'il faut d'ailleurs, selon vous, affirmer les choses ainsi.
Alors, on est dans une société à mobilité des identités. On est dans une société où la question du genre, beaucoup de jeunes me disent mais le problème c'est pas masculin-féminin, c'est d'être soi, le problème c'est d'être intégré, d'être dans la convivialité, d'être dans la solidarité. Et moi ce que j'entends aussi, c'est des hommes et des jeunes qui disent voilà, moi les filles je les trouve séduisantes, etc. Mais finalement, plus profondément, je ne sais pas comment être avec elle. Là où les filles vont dire, quand elles parlent du masculin, les garçons, ils sont violents, ils sont volages. Mmh. Et plus profondément, elles vont dire, mais on a besoin d'une épaule pour s'appuyer dessus. Et donc, on sent que là, on est en pleine contradiction dans les représentations des filles, des garçons, les uns sur les autres, par rapport aux autres. Et que là, il faut avancer, il faut les aider, il faut les accompagner.
Oui, alors, la nouveauté, comme vous l'expliquiez, c'est justement l'apparition donc de l'égalité. Parce que cette répartition des rôles, elle est ancienne.
Donc, la difficulté, c'est que chacun est habité par des juxtapositions de représentations, des représentations héritées du passé dont on a du mal à se débarrasser. Et donc, du coup, on est habité par des stéréotypes. Et ce qui me frappe aussi dans les relations hommes-femmes, c'est que il y a une manière a priori de se représenter l'autre qui ne correspond pas à ce qu'il est. Donc, il faut favoriser le plus possible les échanges, la communication, et faire en sorte que les jeunes communiquent, échangent, et cassent un peu toutes les représentations a priori qu'ils ont sur ce qu'est une fille, ce qu'est un garçon, ce qu'est un homme, une femme.
Mais est-ce que c'est possible de vivre sans représentation a priori, Christine Castelin-Meunier? Parce que la sociologie, justement, considère...
Vous avez raison. En fait, le cerveau n'aime pas le changement. Donc, on reproduit des habitudes. On a cette tendance-là. Et on reproduit ce qu'on voit du côté des adultes. Mais en ce qui concerne les garçons, c'est clair qu'il faut solliciter le plus possible les pères, les hommes, et notamment aussi dans l'éducation, qu'il y ait de plus en plus de professeurs hommes, d'instituteurs hommes, pour les problèmes d'identification.
Non, mais parce que, vous voyez, par exemple, je disais dans la presse ce matin, un influenceur très populaire parmi les jeunes, Adé Laurent, qui représente tous les codes de ce que vous appelleriez le masculinisme, qui incite les jeunes à une virilité, disons, très fruste, et qui est très populaire, y compris chez certains enfants que je connais bien, qui pourtant n'ont pas été éduqués de la sorte. Donc, ce qui veut dire que c'est compliqué aussi pour un parent de donner une certaine éducation à son enfant quand une bonne part de sa socialisation se fait sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr. Mais donc la question des réseaux sociaux est importante puisque les masculinistes sont hyper présents sur les réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aller voir du côté du positif. Parce que, par exemple, en ce qui concerne une intervention dans une classe de troisième, j'étais frappée. Des jeunes hommes, jeunes garçons, jeunes filles, qui disaient, en fait, sur les réseaux sociaux, on a bien compris que là, c'est illimité et on n'a pas de pouvoir. Et ce qui compte, c'est d'avoir une force morale, une force intérieure pour lutter contre toutes les dérives qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très fort. Et notamment même des garçons qui disaient par rapport à la pornographie, oui, les femmes traitées comme des objets, là, il faut aussi arrêter. Donc, ce qui me frappe, c'est à quel point aussi il est question, et là, je renverrai à Bourdieu, d'avoir des ressources intérieures et des ressources symboliques, culturelles, sociales, économique, bien sûr. Et dans l'éducation, ça, c'est fondamental. Et il s'agit aujourd'hui de prendre en considération ce problème vraiment à pleine main.
Christine Castelin-Meunier, Les hommes aussi viennent de Vénus aux éditions Larousse. Et si on réinventait l'éducation des garçons aux éditions Nathan, vous serez rejointe par Charles Danzig qui publie un ouvrage collectif intitulé « Masculinité, point d'interrogation » et c'est aux éditions Grasset. Il est 8h sur France Culture. Si, et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour, elle ne concerne que les ultra-riches. La taxe Zucman était